RFI Matin Suite F1, dans moins de 20 minutes, cap à nouveau sur l'Allemagne, où les bureaux de vote ont ouvert il y a 40 minutes. On retrouvera notre envoyé spécial Julien Chavannes en direct de l'un d'entre eux. À suivre d'ici là notamment notre tour du monde des correspondants au lendemain de l'ouverture du salon de l'agriculture. Tour du monde des innovations en matière agricole. Nous sommes au Kenya, au Japon, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Mais tout de suite les sports. Avec vous, Victor Messistrano, c'est la plus grande épreuve cycliste du continent africain. Le Tour du Rwanda débute aujourd'hui dans un contexte tendu, avec en toile de fond le conflit à l'est de la RDC.
Raison pour laquelle l'équipe belge Soudal Quick Step ne prendra pas le départ de cette 17e édition. Une édition en forme de répétition à 7 mois des mondiaux prévus à Kigali, une première sur le continent. La capitale rwandaise où ce tour débute par un prologue de 4 km sous forme de contre-la-montre aujourd'hui. Avant cette étape beaucoup plus corsée, au départ ils sont 69 coureurs, un seul ancien vainqueur, le triple champion d'Afrique en titre, Enoch Mouloubrane. L'Érythréen, sacré en 2023, est depuis passé dans les rangs de l'équipe Astana, une formation de première division mondiale. Mais c'est avec le maillot de la sélection nationale d'Érythrée qu'il revient sur cette course pour un double objectif, gagner une deuxième fois et préparer les mondiaux.
Je me suis mis d'accord avec mon équipe Astana lors de notre camp d'entraînement en Espagne. Comme ils ne participent pas cette année au Tour du Rwanda, ils m'ont proposé d'y aller avec la sélection nationale et ça me va très bien. On a un super groupe. Le premier objectif, c'est de gagner le maillot jaune. J'arrive avec de très bonnes jambes, tout va bien jusque-là, donc j'espère que ça va marcher. Ensuite, le but, c'est aussi de se préparer pour les championnats du monde. C'est bien pour moi et pour tous les coureurs africains de pouvoir s'entraîner ici. Je connais déjà le parcours des mondiaux, le mur de Kigali, le mont Kigali. C'est très dur, mais c'est vraiment bien de pouvoir s'y entraîner, de s'essayer sur les pavés. Et c'est pour ça que je voulais absolument venir avant les championnats du monde.
L'Érythréen Enoch Mouloubrane au micro de Thomas de Saint-Léger.
En boxe à présent, la déception du Congolais Martin Bakole hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite.
Il a perdu son pari. Le géant de RDC s'était proposé pour remplacer au pied levé le champion Daniel Dubois malade. Bakole a donc renfilé les gants plus tôt que prévu afin d'affronter l'expérimenté néo-zélandais Joseph Parker. Résultat, une défaite cuisante. Le Congolais s'est incliné après seulement quelques minutes de combat pour sa deuxième défaite seulement en 23 combats. Sans préparation, il n'y a pas eu de miracle, Sofiane Amazian.
La montagne était trop haute pour Martin Bakole. Largement favori avant le combat, Joseph Parker n'a pas perdu de temps du côté de Riyad pour faire respecter la logique. Victoire par KO dès la deuxième reprise pour le néo-zélandais de 33 ans et ancien champion du monde. Pas grand chose à dire, Bakole a plutôt bien débuté le combat avant de se faire surprendre par la droite de son adversaire durant la deuxième reprise. À la fin du combat, les deux athlètes se sont enlacés car l'histoire de cet affrontement est incroyable. Daniel Dubois, champion IBF et premier adversaire de Parker est forfait, Bakole saute sur l'occasion et se rend à Riyad en 48 heures à peine. Le natif de Kananga n'a donc pas eu d'entraînement spécifique pour disputer le plus grand combat de sa carrière. Et cela s'est senti sans remettre en cause le talent du boxeur de 31 ans qui restait sur 10 victoires de suite. Peut-on parler de coup d'arrêt? Pas vraiment. Martin Bakole est toujours bien classé et pourrait avoir prochainement une chance pour la ceinture de Daniel Dubois. Sa série d'invincibilité prend fin, mais son ascension ne fait que commencer.
Sofiane Amazian.
Du ring au parquet, la course à la qualification pour l'Afrobasket prévue cet été en Angola se termine aujourd'hui.
Il reste encore quelques tickets à distribuer pour la Guinée. Tout va se jouer dans un peu plus de 2 heures à Tripoli face au Kenya. Le vainqueur va se qualifier. Même enjeu un peu plus tard à Rabat entre le Rwanda et le Gabon. Hier, c'est le Mali qui a décroché son ticket en s'imposant face au Soudan du Sud, déjà qualifié 75-72. Qualification aussi de Madagascar qui a battu l'Égypte 82-80.
Et on termine par le foot européen avec un quadruplé.
Oui, celui de Serhou Guirassy. Une grande première avec Dortmund hier. L'attaquant guinéen a inscrit 4 buts lors de la victoire écrasante du Borussia contre l'Union Berlin. 6-0, ça fait désormais 13 buts en Bundesliga pour Guirassy.
Merci Victor Messistrano, bon dimanche.
RFI Matin.
C'était hier à Paris, l'inauguration par Emmanuel Macron du Salon international de l'agriculture, dans un contexte difficile pour le secteur, en France comme ailleurs, de plus en plus vulnérable aux conséquences du changement climatique et exposé à une demande qui ne cesse de croître. Qu'il s'agisse d'augmenter les rendements agricoles, de rendre les cultures plus responsables ou de mieux rémunérer les producteurs, l'agriculture est en constante évolution et les innovations sont innombrables. Quatre exemples ce matin dans notre tour du monde des correspondants, qui commence au Kenya, pays où l'agriculture est un pilier de l'économie. Elle représentait 21% du PIB en 2023 et emploie 40% de la population, voire 60% en zone rurale, selon les autorités. Alors pour aider les agriculteurs qui sont souvent des petits exploitants, des applications mobiles se développent, Alban Tiroir.
Au Kenya, les petits exploitants agricoles font face à de nombreux défis. Difficultés d'accès au marché, d'achat de semences et d'engrais, manque de matériel ou encore manque de connaissances. Pour les soutenir, plus d'une cinquantaine d'applications numériques étaient à leur disposition en 2023, d'après une estimation de plusieurs chercheurs. Parmi eux, Twiga Food, son application met en lien producteurs et vendeurs, puis vendeurs et acheteurs, le tout en facilitant la chaîne logistique. La start-up se targue d'avoir été adoptée par plus de 1000 agriculteurs et 140 000 vendeurs. Autre exemple, l'application DigiCow, qui permet aux éleveurs laitiers d'accéder des informations concernant leurs animaux, d'interagir avec leurs pairs ou encore de tenir les registres de leurs fermes. Au Kenya, souvent surnommée la Silicon Savannah, ces applications se multiplient donc dans un pays déjà habitué au portefeuille mobile grâce au succès de M-Pesa.
Alban Tiroir, au Kenya, tout autre paysage dans un pays où l'agriculture ne produit que 40% des besoins en nourriture de la population. Nous sommes au Japon où seuls 25% des terres sont cultivables et où la moyenne d'âge des agriculteurs est de 67 ans. Ils ne travaillent d'ailleurs qu'à mi-temps. Parmi les solutions mises en avant, une technique peu gourmande en eau et en engrais et qui sert aussi à remettre en culture des zones agricoles contaminées. On parle de la culture sur film, Frédéric Charles.
La culture sur film permet de faire pousser des légumes dans n'importe quel environnement. Le film s'appuie sur un matériau conçu à l'origine pour traiter les reins humains. Un polymère hydrophile en gel intégré dans les couches jetables. La culture sur film utilise des feuilles imperméables pour séparer les plantes cultivées du sol qui se trouve en dessous. Le film absorbe les éléments nutritifs, mais interdit le passage des germes et des virus. Les plantes produisent de plus grandes quantités d'acides aminés et de sucre. Elles sont plus riches en goût et en valeur nutritive. Cette culture sur film a été créée par le docteur Yuichi Mori, un chercheur en physique des polymères. C'est une technique facile à utiliser par des jeunes sans expérience de l'agriculture, note le docteur Mori. Elle permet de transformer des sols stériles en base de production d'aliments de grande qualité.
Frédéric Charles à Tokyo, cap à présent sur les Pays-Bas, où les fermes verticales commencent à gagner du terrain. C'est loin d'être le premier pays à pratiquer cette innovation. La plus grande ferme du genre en Europe est au Danemark, mais pour les Néerlandais, c'est une question d'avenir. En milieu urbain, pour les Pays-Bas bien classés sur le vieux continent, l'agriculture néerlandaise occupe le cinquième rang dans l'UE, alors que c'est l'un des plus petits pays, Pierre Benazet.
Les Pays-Bas, c'est le pays le plus densément peuplé du continent, plus de 500 habitants au kilomètre carré, à tel point que les géographes, en plaisantant, se demandent s'il ne faut pas plutôt classer les Pays-Bas comme une ville de faible densité. Et pour les urbanistes néerlandais, l'avenir devra passer par l'agriculture en ville, d'autant que la surproduction bovine bata va engendrer une forte pollution aux nitrates. Résultat, le nombre de fermes verticales est en augmentation, mais elles sont aux premières étapes de leur croissance. Quelques faillites ont d'ailleurs déjà eu lieu. Les plus grandes sont à Helmond, Bois-le-Duc et Amsterdam, même si une étude allemande a montré que la culture de légumes dans une installation verticale générait jusqu'à 16 fois plus d'émissions de CO2 que la culture en plein champ, ses partisans soulignent que la proximité avec les consommateurs permettrait de réduire de 60% les coûts en réduisant transport et intermédiaires. Et vu l'abondance d'eau, les expériences vont plus loin que les fermes verticales, avec de l'aquaculture à la haie et un élevage bovin flottant à Rotterdam.
Pierre Benazet, puis dernière étape aux États-Unis, où des exploitations agricoles commencent à se tourner vers les robots et l'intelligence artificielle pour effectuer des tâches jusqu'ici assurées par des humains. Lubna Anaki, certaines fermes ressemblent désormais à des décors de science-fiction.
C'est exactement ça, hein. Imaginez des serres, des champs avec des robots ou des machines équipées de bras articulés et qui s'activent pour planter, désherber, cueillir. Des scènes de plus en plus fréquentes ici. Équipées en plus d'intelligence artificielle, ces robots savent exactement quand il faut arroser et combien d'eau utiliser quand une fraise, par exemple, est prête à être cueillie. Il y a même des robots pollinisateurs qui imitent le travail des abeilles. Dans certains cas, cela réduit le gaspillage de 25% et augmente considérablement durablement les récoltes, car contrairement aux êtres humains, les robots peuvent travailler jour et nuit. Et pour de nombreux experts, ces nouvelles technologies permettent de pallier la pénurie de main-d'œuvre et pourraient même aider à mieux faire face aux effets du réchauffement climatique.
Loubna Naki à New York et notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr. 7h52 à Abidjan. Attention au mélange. Ambiance cassoulet attiéké ce matin dans l'Afrique en marche. Cap à Abidjan, où demain lundi, l'académie du Stade Toulousain, le club de rugby le plus titré d'Europe, débutera un stage de formation auprès du club du CRAC, le Cocody Rugby Abidjan Club. Une semaine de formation et d'échanges avec une centaine de jeunes Ivoiriens et leurs éducateurs. La Côte d'Ivoire regorge de talents rugbystiques. Pour peu d'avoir un club où se perfectionner, Frédéric Gara.
Bonjour, vous êtes avec Emile Tamac en direct du Stade Toulousain. Sous le beau soleil toulousain, pratiquer un joli rugby.
Elle est enthousiaste, la légende du rugby français et toulousain. L'ex-joueur Emile Tamac, devenu directeur de la Stade Toulousain Academy, propose avec ses compères formateurs des stages avec des clubs un peu partout dans le monde. Et cette semaine, ce sera avec le CRAC d'Abidjan, le Cocody Rugby Abidjan Club, un club dont l'un des fondateurs est Emmanuel Henao, honoré et ravi d'accueillir pendant une semaine les formateurs toulousains qui vont prodiguer leur savoir aux jeunes Ivoiriens et à leurs encadrants.
C'est à la fois une étape magnifique du travail fourni, de notre capacité aussi à être prise au sérieux. Je dis souvent à mes joueurs, à mes joueuses, qu'on doit se prendre au sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Et c'est évidemment pour nous une espèce de consécration. Et puis en même temps, c'est un point de départ. Parce qu'on se dit qu'on est parti peut-être pour 3 ans de partenariat avec eux. Donc effectivement, c'est une magnifique consécration et la notoriété et le prestige du Stade Toulousain. On est reconnu et en fait, voilà, on peut aller chercher les meilleurs.
S'améliorer, échanger, renforcer les techniques de jeu et d'entraînement, ce sont autant de choses que transmettra la Toulouse Academy pendant cette semaine de stage, supervisée par Emile Ntamak, qui n'était pas revenu en Côte d'Ivoire depuis fatigué, comme on dit, à Abidjan.
Ouf, j'étais tout petit, donc c'était il y a presque 54 ans. J'y suis déjà venu tout petit, mon père est du Cameroun, originaire, donc petit on avait voyagé au Cameroun et en Côte d'Ivoire. J'avais un tonton qui travaillait là-bas, mais j'ai très 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 peu de souvenirs, et c'est pour ça que je suis ravi d'y revenir.
Revenir en Côte d'Ivoire pour un stage qui devrait porter ses fruits.
Alors ça porte ses fruits, oui, on voit des éducateurs qui ont plus de billes pour être plus à l'aise, pour pouvoir encadrer les jeunes, plus de variété, plus d'ateliers, plus d'exercices, donne plus de sens dans ce qu'ils mettent en place sur le travail pour les enfants. Après, c'est pas pour autant qu'on a eu depuis sorti 3 joueurs internationaux, c'est pas le but. C'est d'être en phase avec ce qu'on fait, quand on fait une pratique, on est passionné, quand on a des personnes qui nous accompagnent pour mettre en place ce genre d'activité, eh ben si tu le gères comme ça, ça ira mieux. Ben on est tous friands de ça et c'est ce qu'on a proposé et ils sont plus à l'aise. On voit que les joueurs sont plus enthousiastes, s'amusent plus parce que finalement il y a plus de rythme, plus de dynamisme, plus de jeu et forcément ça entraîne les enfants à être plaisants dans l'activité. Si déjà les enfants sont heureux de la pratique du rugby et reviennent de plus en plus nombreux, ça c'est un signe déjà de progression.
Une progression que vise également Ismaël Essani, il est formateur à l'Académie Toulousaine.
Le but c'est de créer un pont entre les deux institutions où on puisse derrière faire effervescence des différents projets qui peuvent être liés aux jeunes enfants, qui peut être lié à un groupe d'adultes qui souhaitent venir voir le niveau en France, à Toulouse, ou des clubs autour, et pourquoi pas ailleurs. Mais le but, c'est justement d'essayer un pont entre les deux entités pour pouvoir favoriser l'échange.
Ces échanges entre clubs de rugby français et le CRAC d'Abidjan ont ainsi permis à Jonathan Ange Dongo, 22 ans, de poursuivre ses études en finance et sa passion pour le rugby. Il est en sport-études en France à Niort, en Fédéral 3 Espoir.
Je pense que c'est au travers de ces différents clubs comme le CRAC qui ont la volonté de faire progresser les joueurs ivoiriens et le rugby ivoirien en général, que nous, joueurs de ces différents clubs-là, nous arrivons à avoir la chance d'avoir de telles opportunités. C'est vraiment un truc qui a commencé il y a vraiment longtemps, peut-être depuis même la création du CRAC en 2015. Et Dieu merci, il y a eu la matérialisation maintenant de ce genre de projet. C'est un pas que tous les autres clubs vont commencer à emboîter pour favoriser l'essor et le développement du rugby ivoirien.
Et il est immense le potentiel rugbystique ivoirien. Ce n'est pas tout à fait un hasard si l'un des grands capitaines de l'équipe de France, un certain Thierry Dussautoir, est originaire de Divo, dans le district du Gojiboua.
Tapez Tapez le ballon par le groupe ivoirien Lyrix et l'Afrique en marche que vous retrouvez sur RFI.fr. Et bientôt, 8h en temps universel, RFI Matin se termine en musique, comme chaque jour, avec un trio marseillais méditerranéen franco-marocain, le Zar Électrique, et son titre Babor, premier extrait de son album attendu au printemps.
Plastique se tord, les sons éclatés, ce sans effort. Des pensées s'échappent jusqu'à ce bord. Le ciel et les nuages éclatent à bâbord. Soulevés par la brise, essoufflés, les rêves s'attisent. Au loin, la goutte s'étire. Et le matin dans le vide touche à vide. Quelle force m'a poussé, quel genou de monte enlacé. Quelle terre m'a cueillera, je ne vois plus rien, c'est le noir.
Ah ouais, je t'ai mis des lires, ce qui est moui. Oui, je suis fier, tire et ramené.
Électrique, ça réveille, le titre Babor dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez, vous le savez, sur musique.rfi.fr. Et voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. RFI Matin qui revient demain et qui sera notamment en direct de Kiev pour une édition spéciale, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Et tout de suite, le journal dans 30 secondes. Bon dimanche sur RFI.
Ce lundi, journée spéciale, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Andréane Mélard.
Et pour l'occasion, RFI sera à Kiev en direct avec nos invités, nos correspondants. On va parler de la guerre meurtrière, toujours en cours, de l'état de la population et surtout de la paix. Est-elle possible? Sur quelle base et à quel prix? Rendez-vous ce lundi 24 février dès 6h temps universel sur RFI.